Campus, il est 8h.
Allez, pour bien démarrer, Radio Campus 106,6 FM, l'empirique contre-attaque, c'est parti.
L'émission qui fait pétiller vos neurones.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'Empirique contre-attaque. Entièrement réalisée par des lycéens. Nous sommes élèves de première spécialité SVT au lycée Girosani à Boulogne-sur-Mer et nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Tristan Billard.
Bonjour.
Un expert en biologie, notamment sur le plancton marin. Notre classe a travaillé sur le plancton pour essayer de comprendre son rôle dans les écosystèmes. Enzo, Mattea, Salomé et Clara vont vous présenter ce qui a été vu en classe.
Bienvenue à tous dans l'Empirique contre-attaque, l'émission qui décortique la science avec des pincettes et parfois avec des épuisettes. Aujourd'hui, on plonge littéralement dans le monde fascinant de la biologie marine en tant que reporter en herbe.
Prêt, et croyez-moi, on en a vu des choses.
Des choses microscopiques, certes, mais des choses passionnantes.
Ah, le plancton, parlons-en. Vous avez fait des observations au microscope, c'est ça? Racontez-nous.
Alors déjà, le plancton, c'est un peu comme le confetti de l'océan. Il y en a partout, de toutes les formes et de toutes les couleurs. On a vu des coccolithophodes, des noms à coucher dehors, mais des créatures magnifiques.
Et surtout, c'est la base de toute la chaîne alimentaire marine. Sans plancton, pas de poisson, pas de phoque, pas de sushi party.
Sushi party compromise, voilà qui est grave. Mais au-delà de la nourriture, le plancton a un rôle crucial dans le cycle du carbone, n'est-ce pas ? C'est là que votre expérience entre en jeu.
Exactement. On a voulu comprendre comment l'écosystème influence le cycle du carbone. En gros, on a créé des mini-océans en laboratoire avec différentes conditions. Plus de lumière, moins de lumière, plus de nutriments, moins de nutriments.
Et là, surprise. On a vu que la quantité de CO2 absorbée par le plancton changeait radicalement en fonction de l'environnement. Plus de lumière et de nutriments, plus de photosynthèse, donc plus de CO2 capturé. C'est un peu comme si on avait donné du dopant au plancton.
Du dopant au plancton, j'adore l'image. Donc, si je comprends bien, un écosystème marin en bonne santé, c'est un allié de choc contre le réchauffement climatique.
C'est ça. Mais le problème, c'est que la pollution, l'acidification des océans, le dérèglement climatique et la surpêche, tout ça perturbe les écosystèmes et réduit la capacité du plancton à observer le CO2.
C'est comme si on lui donnait du somnifère au lieu du dopant. L'ambiance est moins festive.
Triste réalité. Et vos recherches sur les échanges de carbone entre les océans et les autres enveloppes de la Terre, ça donne quoi ?
Alors l'océan, c'est une véritable éponge à CO2. Il absorbe une grande partie du CO2 que nous émettons avec nos activités humaines.
Mais attention, l'éponge commence à saturer. Plus l'océan absorbe de CO2, plus il s'acidifie, ce qui met en danger de nombreuses espèces marines, notamment les coraux.
Donc, en résumé, l'océan nous rend un fier service écosystémique en absorbant notre CO2. Mais on est en train de le transformer en soupe acide. Pas très appétissant.
C'est ça. Il faut vraiment qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre pour préserver l'océan. Et par la même occasion, notre propre avenir.
Message reçu 5 sur 5. Merci beaucoup à nos reporters en herbe pour cette chronique passionnante et éclairante. Et maintenant, place à l'interview de Tristan Billard, chercheur en biologie marine, qui va nous en dire encore plus sur le plancton et le rôle des océans dans le cycle du carbone.
Nous allons maintenant laisser la parole à Emeric et Erwan qui vont interviewer Tristan Billard.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler à Tristan, avec Tristan Billard, un chercheur passionné qui travaille au laboratoire d'océanologie et de géosciences à Wimereux. Tristan se consacre à l'étude des océans et plus particulièrement des planctons, ces petits organismes marins qui jouent un rôle crucial dans notre écosystème.
Actuellement, il se concentre sur le plancton, un groupe de micro-organismes marins essentiels. Grâce à son travail, Tristan Billard nous éclaire sur l'écologie des planctons et leur rôle vital dans nos océans. Alors, première question, qui vous a plongé dans le monde fascinant du plancton ?
Moi-même.
personne qui m'a plongé. J'ai décidé de plonger directement dedans. Et ça a été un peu un hasard, en fait. J'ai pas de vocation à travailler le plancton depuis que je suis enfant. Je voulais être architecte. Et puis, par le hasard des études, j'ai découvert le plancton. Et j'ai été très rapidement happé par la beauté et la complexité du modèle d'étude. C'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer sur son étude.
Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être un planctonologue ?
Et donc, non. Non, c'est un peu... On associe souvent aux chercheurs une vocation qui est innée, mais pas du tout. Moi, je suis pas du tout un planctonologue de naissance. J'ai toujours habité près de la mer. Alors, c'est peut-être le lien que je vois avec ce modèle d'étude. Mais même enfant, je savais pas ce qu'était le plancton. Donc non, la planctonologie m'est venue beaucoup plus tardivement, à peu près aux alentours de mes 20 ans.
D'accord. Seconde question. Quel a été votre parcours académique avant de devenir chercheur?
Alors j'ai fait un parcours classique hein, pour arriver au niveau où j'en suis, donc c'est-à-dire bac scientifique, spécialité SVT, donc comme vous. J'étais nul en mathématiques et nul en physique, et j'adorais la biologie. Et ensuite, je suis rentré donc en l'université du Havre, en Normandie, où j'ai fait une licence sciences de la vie et de la terre en 3 ans, avec une spécialisation en géologie. Donc vous voyez déjà que je m'écarte un peu du sujet du plancton. Et en fait, à la fin de cette licence, je souhaitais continuer en master. Et j'ai intégré un master à Paris, donc à Sorbonne, un master en océanographie, où j'avais un peu pour idée de travailler sur la conservation et l'étude des milieux marins. Et c'est uniquement à partir de mon stage en laboratoire, donc on a un stage en laboratoire en première année de master, où j'ai découvert, donc à côté de Nice, à Villefranche-sur-Mer, où j'ai découvert le plancton. Et c'est là où, en fait, ma vocation a changé et je me suis dit que je voulais continuer à travailler sur le plancton et, si possible, d'en faire ma carrière. Donc après un master, donc ça fait déjà bac plus 5, j'ai fait une thèse de doctorat, toujours à Sorbonne, mais en Bretagne, dans le Finistère, à la station biologique de Roscoff. Et donc une thèse de doctorat, ça se passe en 3 ans, ce qui veut dire que si vous cumulez tout ça, ça fait un bac plus 8. Et avec un bac plus 8, normalement vous êtes censé pouvoir être chercheur, mais c'est pas exactement le cas, puisque la réalité est tout autre, puisqu'en fait, après un doctorat, on doit continuer plus ou moins de manière officieuse en post-doctorat, donc c'est-à-dire ce sont des contrats qui peuvent varier entre 1, 2 et 3 ans. Et donc moi j'ai fait un post-doctorat de 18 mois à San Diego, en Californie. Et donc tout ça, ça nous porte en bac plus 10, et j'ai eu la chance d'avoir très rapidement un poste. Alors que je dis très rapidement, c'est que généralement, c'est plus à bac plus 12, 14 qu'on arrive à avoir un poste. Et donc moi, bac plus 10, bac plus 10, j'étais recruté donc au laboratoire d'océanologie et de géosciences à Vimereux en tant que maître de conférence. Donc, c'est-à-dire que je fais à la fois de la recherche et de l'enseignement universitaire.
Pour la troisième question... Quelles compétences considérez-vous comme essentielles pour réussir dans le domaine de la recherche marine ?
Alors, la première qualité, je dirais, c'est une bonne qualité dans la vie, c'est d'être curieux. Soyez curieux, intéressez-vous à ce qui vous entoure, à ce qui intéresse-vous, posez-vous des questions. Si vous voyez, l'océan qui change de couleur, posez-vous des questions. Soyez curieux, dites-vous qu'est-ce que ça peut être. Et c'est vraiment la qualité d'un bon chercheur, c'est de se poser des questions en permanence. Ensuite, forcément, au vu du long parcours académique qu'il faut pour arriver à ce stade-là, je pense que la deuxième qualité, c'est la persévérance. Il faut vraiment persévérer, puisqu'on ne travaille pas pour l'argent. Alors, on ne va pas parler de salaire, mais un salaire d'enseignant-chercheur, ce n'est pas le même salaire qu'on pourrait avoir avec un bac plus 10. Donc, on fait vraiment ça par passion. Et il n'y a pas d'autre, en fait... On apprend toujours. Il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'on est en poste qu'on arrête d'apprendre. Moi, j'avais un de mes mentors qui s'est récemment présenté, donc il a 65 ans, et il s'est récemment présenté à un meeting devant d'autres étudiants comme étant un étudiant de l'océan à 65 ans. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est que même moi, je suis encore étudiant, finalement, j'étudie l'océan et je continue d'apprendre, et je continue aussi à apprendre à comment transmettre cette passion et ces compétences aux autres aux générations qui arrivent à passer.
Quel projet de recherche avez-vous mené avant le projet Recycle et quels en ont été les résultats ?
Alors Recycle, en fait, ça a été le premier gros projet que j'ai pu porter en tant que chercheur à Vimereux. Et avant, en fait, c'était plus des projets qui n'émanaient pas directement de moi. C'est-à-dire qu'en thèse et en post-doctorat, généralement, ce sont d'autres chercheurs qui ont des projets et qui cherchent des doctorants ou des post-doctorants pour travailler sur ces sujets-là. Donc en fait, en thèse, moi, c'était pas mon projet à moi. C'était un autre projet qui s'appelait Désir. Donc vous allez voir, on pourra parler d'acronyme plus tard. Donc le projet Désir, c'était le projet de mon encadrant de doctorat. Et quand je suis passé en post-doctorat à San Diego, donc là, c'est plus mon projet à moi qui n'avait pas d'acronyme et qui avait pour but d'étudier le plancton dans le courant de Californie. Donc c'est un courant marin qui longe la Californie, qui va faire remonter de l'eau froide et qui a un peu finalement fait germer en moi l'idée du projet Recycle que j'ai mené de 2020 à 2025, qui s'est terminé là il y a quelques mois. Et les résultats principaux de tout ça, bah, ça a été, je pense qu'on va parler tout à l'heure, hein, mais il y a eu des résultats qui s'ajoutent les uns aux autres et qui moi, me poussent en tant que chercheur à réfléchir, à déposer d'autres projets dans la suite de ces projets-là.
Votre thèse parle de la diversité, de la biogéographie et de l'écologie des colodaires. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les colodaires ?
Alors, très bonne question. Les colodaires, effectivement, c'est comme si je vous parlais d'un groupe de fourmis dont personne ne connaît et personne n'en a rien à faire. Et ça a été un peu mon cas. Et en fait, une thèse, souvent, c'est ça. Quand vous faites une thèse de doctorat, vous devenez le spécialiste sur un sujet. Vous êtes le meilleur spécialiste au monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres spécialistes. Donc, on devient le meilleur, mais par absence d'autres personnes. Et donc, en fait, les colodaires, c'est un groupe d'organismes qu'on appelle des radiolaires. Donc ça, c'est comme si je disais, vous avez les arbres, et puis à l'intérieur des arbres, vous avez des chênes et des tilleuls. Et ben moi, mes arbres, ce sont les radiolaires, les colodaires, ce sont, par exemple, les chênes. Et en fait, ce sont donc des organismes unicellulaires, donc ils sont composés d'une seule cellule, et ce sont des organismes qui sont très vieux, les radiolaires, puisque les premières formes fossiles qu'on connaît datent d'il y a à peu près 660 millions d'années, donc bien au-delà des dinosaures. Et ils ont évolué au fur et à mesure du temps, ils sont diversifiés, donc il y en a eu des lignées différentes, par exemple des chênes et des hêtres. Et vous avez eu les colodaires qui sont apparus parmi les derniers, qui sont un peu des formes bizarres, puisque c'est des formes qui sont très grosses par rapport à leurs congénères. Et on parle d'organismes unicellulaires, donc on parle vraiment d'une seule cellule, et ces cellules-là, en fait, ont cette particularité de former des cellules géantes. C'est-à-dire qu'elles sont géantes pour le plancton et qu'on est capable de les voir certaines à l'œil nu, hein, puisque les plus grosses colonies de colodaires qu'on connaisse, alors il y en a une dans la littérature qui mentionne une colonie de 3 mètres, je ne suis pas persuadé que ce soit vrai, mais bon, je vais croire mes prédécesseurs sur parole, et on peut les voir en plongée. Moi, je vois assez souvent des images de plongée sous-marine où les gens avec des appareils photo arrivent à voir des colonies d'organismes unicellulaires. Et c'est ce paradoxe qui est assez intéressant entre le fait que des choses unicellulaires, si je vous parle d'une bactérie, vous imaginez quelque chose de tout petit qu'on ne peut pas voir. Et en fait, les colodaires sont des choses très petites, mais qui ont des formes très grosses qu'on arrive à voir à l'œil nu. Et en fait, c'est vraiment ça qui a été passionnant sur l'étude de ces organismes-là.
Donc, vous étudiez la distribution des mésoplanctons selon l'environnement. Quelles sont les découvertes les plus surprenantes que vous avez faites à leur sujet ?
Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut d'abord expliquer ce que c'est le mésoplancton. Hein, parce que, alors, qu'est-ce que ça veut dire méso ? Alors, le plancton, les scientifiques adorent mettre les choses dans des cases. C'est un peu notre dada. Et le plancton a été saucissonné en différentes classes de taille. Vous avez le picot, le nano, le micro, donc ça qui vont vous rappeler des unités que vous connaissez en biologie. Et donc, le mésoplancton, ce sont des organismes qui sont compris entre... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quelques centaines de microns jusqu'à quelques millimètres. D'accord ? Donc, c'est une classe de taille. Et les colodaires, comme je vous ai dit, en fait, sont des organismes qui peuvent avoir des tailles qui varient entre une dizaine de microns et jusqu'à ces fameux 3 mètres pour les colonies. Donc, ça, c'est pour l'étude du mésozooplancton. Et en fait, la découverte principale de mon doctorat, ça a été de se rendre compte que ces organismes-là, qu'on pensait être finalement pas très abondants dans les océans, se sont révélés être beaucoup plus abondants que que ce qu'on pensait et que surtout que après 150 ans d'études des océans, on était passé un peu à côté. Alors, pourriez-vous poser la question, comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? En fait, on s'en est rendu compte via l'utilisation de caméras sous-marines. Donc, en fait, c'est une sorte d'appareils photo qui prennent des photos très rapides entre 0 et 6000 mètres du fond. Et en fait, on a répété ces captures d'images. Et vu que les coelodaires sont des organismes relativement gros, on a pu voir ces organismes-là. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte que ces organismes étaient souvent très fragiles. C'est-à-dire que quand on les collectait avec d'autres méthodes que des caméras, ils avaient tendance à être cassés. Donc nous, notre hypothèse a été de se dire qu'ils étaient cassés à cause des méthodes. Et vu que le fait d'utiliser des nouvelles méthodes qui ne cassent pas, en fait, on s'est posé la question, est-ce que ce n'est pas ça qui nous a permis de découvrir leur abondance? Et donc finalement, la grosse révélation, c'est de se dire, ils sont là, dans les océans, et ils sont beaucoup plus abondants que ce qu'on pensait, parfois plus abondants que des organismes clés, et donc nécessité derrière d'aller les étudier plus en détail, parce que être abondant va potentiellement avoir des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes marins.
Avez-vous remarqué des changements dans les populations de plancton ces dernières années?
Alors, à titre personnel, non. On a des collègues à Vimereux qui ont effectivement étudié ça, qui notamment ont démontré que les populations de poissons en Atlantique Nord avaient tendance à migrer vers le Nord. Alors, elles se rapprochent des pôles. Alors, jusque-là, vous me direz, c'est pas très très grave. Et en fait, ils ont réfléchi quelle est la cause de cette migration. Et ils se sont rendu compte qu'ils suivaient en fait leur proie. Et que leurs proies, qui sont du plancton, en fait, avaient tendance à migrer vers les pôles. Parce que le plancton, finalement, un peu comme pas mal d'organismes, ils ont ce qu'on appelle une zone thermique dans laquelle ils aiment bien vivre. Par exemple, vous, si c'est la canicule, vous n'êtes pas heureux. Et nous, quand c'est la canicule, qu'est-ce qu'on fait? On met la clim ou on part dans un endroit où il fait frais, à la montagne par exemple. Et le plancton, il ne peut pas mettre la clim. Donc le plancton, qu'est-ce qu'il fait s'il a trop chaud dans son écosystème? Il va avoir tendance à aller à un endroit, s'il est capable de se déplacer, où il fait un peu plus frais. Et en fait, ils se sont rendus compte effectivement qu'il y a des populations qui vont migrer vers le nord. Et en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que les écosystèmes tropicaux, donc dans les océans, qui représentent quand même une énorme partie en termes de surface, ont tendance à s'accroître et à migrer vers les nord. Donc on a les zones tropicales qui deviennent de plus en plus grandes, et donc on a des populations de plancton qui vont avoir tendance à migrer vers les pôles.
Enfin, quels sont vos projets futurs ou vos aspirations en matière de recherche sur les planctons?
Alors, projet futur, j'espère bientôt un projet pour partir dans l'océan Austral, donc dans les autour des îles antarctiques françaises. Donc la France possède des îles entre la Réunion et l'Antarctique, qui sont les îles Kerguelen, Crozet, Amsterdam et Saint-Paul. Et en fait, donc j'ai déposé récemment un projet là, en attente de financement, parce que faire de la recherche, ça coûte de l'argent, c'est de l'argent public. Donc quand vous serez plus grand, ce sera vos impôts qui pourront payer mes projets de recherche. Donc je vous en remercie par avance. Et en fait, ce projet qui s'appelle Chorizo. Donc voilà, je continue dans les acronymes. Ce projet, en fait, il a pour but d'aller étudier donc toujours ces radiolaires dans l'océan Austral et d'étudier un peu leurs conséquences sur le cycle de la matière.
Avez-vous prévu de publier vos recherches à travers un livre?
Alors, oui, mais probablement beaucoup plus tard. C'est-à-dire que dans la recherche... terme science dure, science molle, que j'aime pas tellement. Dans notre domaine science dure, généralement, en fait, la publication de livres, c'est plus, je veux dire, pas forcément anecdotique, mais c'est pas forcément la norme. Généralement, on publie des articles scientifiques, qui sont des courts résumés de recherche scientifique. Et on peut publier des livres, mais voilà, les livres, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de résumer un sujet en long, en large et en travers, à un instant T. Moi, j'ai eu livre de chevet, pas littéralement sur ma table de chevet, j'en suis pas quand même à ce point-là, mais j'ai eu comme livre qui m'a vraiment passionné, un livre qui était paru en 1983, qui était publié par un des géants qui travaillait sur les radiolaires. Et en fait, depuis 1983, il n'y a aucun livre qui est vraiment sorti spécifiquement sur l'étude des radiolaires. Et c'est vrai que, à titre personnel, moi j'aimerais bien d'ici, 5-10 ans, publier une sorte de suite de cette histoire-là. avec l'état de nos connaissances, puisque forcément, en l'espace de 40 ans, notre état de connaissance sur la radiolaire a énormément évolué. Mais j'ai pas envie de faire ça trop vite, puisque j'estime qu'il y a encore beaucoup trop de questions auxquelles j'ai pas de réponse. Et moi, j'aimerais bien faire un livre qui finalement pourra être publié et qui pourra être utilisé comme ce livre de 1983 pour les 40 ans à venir, pour les générations qui arrivent.
I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see. In the shade, we would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance. In the shade.
C'est fascinant de voir comment votre parcours vous a conduit à cette spécialisation et vos observations. Maintenant, parlons un peu des recherches que vous effectuez en ce moment avec Jade et Jeanne.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le plancton et pourquoi sont-ils importants dans les écosystèmes marins ?
Alors, vague question. Donc, le plancton, qu'est-ce que c'est ? Le plancton, c'est la définition originale du plancton, sont des organismes qui dérivent au gré des courants. C'est si vous prenez littéralement le terme plancton. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque dans le plancton, vous allez retrouver par exemple des méduses. Et des méduses, vous avez déjà vu des méduses, ça se déplace. Les larves de poissons sont considérées comme du plancton. Donc il y a énormément de choses. La grosse dichotomie qu'on a dans le plancton, c'est qu'on va avoir à la fois le plancton végétal, qu'on appelle le phytoplancton, et le plancton animal, le zooplancton. Et pourquoi est-ce qu'ils sont importants dans l'écosystème marin ? En fait, ils occupent les deux premiers niveaux trophiques de la chaîne alimentaire. C'est comme si vous faites le comparatif avec un écosystème terrestre. Vous avez les plantes, donc vous avez l'herbe par exemple, vous avez les arbres dans les forêts, ça va être le phytoplancton. Tout ça va créer de la matière, et cette matière va être mangée par des herbivores. Donc vous avez du zooplancton herbivore, vous avez ce qu'on appelle du plancton brouteur, comme les vaches. Ensuite, vous allez avoir du zooplancton carnivore, qui vont manger d'autres zooplanctons. Et tout ça va finir par être mangé à un moment donné par les larves de poissons. Et les larves de poissons, ainsi de suite, vont être mangées par des organismes supérieurs. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont importants ? Ils représentent la base de toute la vie dans les océans. Et même si on va aller encore plus loin, nous sommes ici tous des humains, a priori, et nous avons tous comme origine commune, la vie marine. Puisque la vie sur Terre, alors je dis sur Terre, la planète, la vie sur la planète Terre vient de la mer. Donc nous avons des formes qui sont des formes planctoniques, puisque la vie est partie de la mer. Donc finalement, on doit au plancton notre existence, finalement. Et je pense que c'est suffisant pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont importants.
Quel est leur rôle dans la chaîne alimentaire marine ?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont un rôle de base dans la chaîne alimentaire marine, puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir manger du poisson, entre autres, puisque du coup, ils vont, via la photosynthèse, donc le phytoplancton va capturer du dioxyde de carbone, il va, grâce à l'énergie solaire, transformer ce dioxyde de carbone. Donc, un atome de carbone, il va le transformer en sucre. Et ce sucre, ça va être ce qu'on appelle de la matière organique. Donc, il va cumuler et accumuler de la matière organique au sein de ses tissus. Et le zooplancton herbivore va manger cette matière, va l'accumuler, il va être mangé par du zooplancton carnivore, il va être mangé par des larves de poissons, des petits poissons, des gros poissons. Et à la fin, on va retrouver qui ? On va retrouver vous, tout en haut de la chaîne trophique. Donc, leur rôle, c'est vraiment de soutenir la base de la chaîne trophique. Et sans plancton, il n'y aurait pas de vie dans les océans.
Comment étudiez-vous ces micro-organismes en laboratoire ou sur le terrain ?
Alors pareil, en fait, c'est il faut mettre en parallèle la diversité de forme et la diversité de taille pour étudier des choses qui font 10 puissance moins 9 mètres en termes de taille. Il vous faut des microscopes hyper puissants. On a la chance à Vimereux d'avoir un petit microscope qui nous permet d'avoir des images de virus marins tout petits. Donc c'est des très gros microscopes qu'on appelle les microscopes électroniques à balayage. Et après, on va avoir des microscopes plus simples que vous pouvez retrouver dans les collèges et les lycées. Et on va pouvoir avoir, dans certains cas, des chambres d'incubation, des sortes de petits aquariums dans lesquels on va faire pousser nos organismes. Alors, tout le plancton ne peut pas être cultivé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre simplement dans une flasque d'eau, lui mettre de la lumière, des nutriments et dire « pousse ». Ça marche pour les organismes photosynthétiques, puisqu'ils ont juste besoin de ça, de nutriments, de lumière et de CO2. Pour les organismes qui sont herbivores et carnivores, c'est un peu plus compliqué. Donc les cultures de plancton, on n'a pas pour tous. Donc ça, c'est ce qu'on fait au laboratoire. Et comment est-ce qu'on étudie le plancton sur le terrain ? Et bien pareil, ça va être soit vous prenez une épuisette, un fil à plancton, ça ressemble à une sorte de fil à papillon, que vous pouvez très bien construire en prenant des collants de filles, vous prenez ça, vous mettez une bouteille au bout et vous avez un filet en plancton. Donc ça, vous pouvez très bien le construire, vous allez sur la plage de Boulogne, vous tirez pendant 5 minutes le long du ponton et vous allez observer plein de plancton. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Et autrement, vous faites comme moi ce que j'essaie de faire de temps en temps, c'est vous partez sur des gros navires pendant une dizaine, voire trentaine de jours, et vous partez en plein milieu de la mer. Et vous utilisez toute une variété d'équipements différents qui vont de petits filets à des grosses bouteilles ou des caméras, comme je mentionnais tout à l'heure en début d'interview, des caméras qui nous permettent de prendre des photos directement des organismes planctoniques sous la mer. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses et on peut les étudier à la surface, on peut même les étudier avec des satellites, on peut même les étudier avec des éléphants de mer. Alors vous allez dire, comment est-ce qu'on étudie le plancton avec des éléphants de mer ? Donc on a des collègues à Paris et au laboratoire de Chizé, donc dans le centre de la France, qui placent des capteurs sur la tête des éléphants de mer dans les îles australes françaises. Puisqu'ils se sont rendus compte que les éléphants de mer, c'était des super organismes, des super océanographes, puisqu'ils plongeaient plusieurs fois par jour à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres, et ils le font plusieurs fois. Donc si vous leur collez un capteur sur la tête, eux ils s'en rendent pas compte, ça vous permet d'accumuler plein de données sans y être. Donc ça nous permet derrière nous de récolter pas mal d'informations. Et donc on a aussi, avec la robotique maintenant, énormément de capteurs indépendants, donc qui sont des capteurs, des flotteurs qu'on va jeter à l'eau, et qui vont dériver, qui vont faire des yo-yo dans la mer, et qui vont dériver, et qui vont nous envoyer les données directement par satellite. Donc on a vraiment toute une batterie de possibilités pour étudier ces organismes de manière à distance.
Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur le plancton aujourd'hui ?
Ça va dépendre des groupes d'organismes planctoniques. On a certains organismes planctoniques, comme je disais tout à l'heure, qui ont des carapaces. Un peu comme les escargots, qui sont des carapaces de calcite. Donc le calcite, c'est du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, il a cette particularité que si vous le mettez dans un milieu acide, il va avoir tendance à se dissoudre. Vous pouvez faire ça, vous prenez de la craie par exemple, vous prenez un peu d'acide, et vous allez voir, ça va avoir tendance à se dissoudre. Donc une des menaces qu'on peut avoir sur une partie du plancton, ça va être justement l'acidification des océans. C'est-à-dire que l'océan accumule de plus en plus de dioxyde de carbone, et que ce dioxyde de carbone va avoir tendance à acidifier le pH de la mer. Si on acidifie trop le pH, en fait, on va avoir toute une partie des organismes calcifiants qui vont être menacés par une dissolution plus poussée de leur carapace ou leur coquille. Les moules, par exemple, ça peut être le cas, ou les coccolithophores, qu'on mentionnait pareil au début. Après, on va avoir tout ce qui va être augmentation de la température, puisque certains organismes, les organismes planctoniques ne régulent pas leur température, comme nous. Donc certains organismes vont avoir des optimums thermiques, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de vivre dans certaines gammes de température, et s'il fait trop froid ou trop chaud, l'organisme va être stressé, et s'il est stressé trop longtemps, il va finir par mourir. Donc on a de plus en plus, par exemple, de ce qu'on appelle des canicules marines, qui sont comme les canicules qu'on a, nous, humains, où il fait très chaud et on n'est pas bien du tout. Et dans les océans, c'est la même chose. On a eu ça il y a 2 ans en Atlantique Nord, on a eu la plus grosse vague de chaleur ou canicule marine qu'on ait connue depuis qu'on observe les océans, et on avait une augmentation de 5 degrés. Alors vous vous dites, 5 degrés, c'est pas énorme, 5 degrés, mais si vous vous placez à l'échelle d'un micro-organisme, 5 degrés, c'est absolument colossal. Et le problème des canicules marines, c'est que ce sont des canicules qui durent dans le temps, qui durent plusieurs jours, voire dizaines de jours. Et c'est là où les dommages vraiment peuvent intervenir. Maintenant, si on veut être terminé sur une note positive pour cette question, il faut aussi se dire que le plancton, il en a vu d'autres. Si vous regardez vos cours, vous regardez des bouquins sur l'évolution de la vie sur Terre, la vie a connu des grandes crises majeures dans laquelle plus de 99% de la vie marine a été exterminée. On a des grandes crises comme ça au Permo-Trias, où 99% de la vie marine a disparu. On est toujours là, le plancton est toujours là. Donc moi, je suis persuadé qu'ils ont des capacités d'adaptation. Probablement, la difficulté, ça va être de se dire que les menaces que l'homme fait peser sur le plancton et les océans aujourd'hui sont des menaces qui sont des pressions qui sont très rapides. Et peut-être qu'elles sont trop rapides pour laisser la capacité d'adaptation de ces organismes. À voir, on ne sait pas encore.
Pourquoi leur étude peut-elle contribuer à mieux comprendre les changements climatiques ou la santé des océans ?
Alors la santé des océans, si on considère que le plancton sert de base aux chaînes trophiques, si on arrive à comprendre que l'état de santé, on va dire, des populations planctoniques, ça va nous permettre, par exemple, de se dire est-ce qu'on peut continuer à pêcher ou à manger autant de poissons qu'on le fait actuellement. Donc ça, c'est quand même quand on dit là, de prendre le pouls de quelqu'un pour savoir comment est-ce qu'il se porte, je pense que le plancton est bien placé, si vous voulez, pour donner une information sur la santé des océans. Pour la partie changement climatique, moi, ce qui m'intéresse à titre personnel dans mes recherches, c'est justement de s'intéresser à la capacité du plancton à prendre une partie du dioxyde de carbone atmosphérique et à le transformer en matière et potentiellement le séquestrer. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever du dioxyde de carbone qu'on va émettre, par exemple, si vous avez une voiture ou que vous avez pris le bus ce matin, vous avez émis une partie de dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone va s'accumuler dans l'atmosphère et une partie va être transférée dans les océans. Ce qu'on verra un peu plus tard dans l'interview. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de quantifier, de mettre des chiffres, en fait. De dire, ces organismes-là sont capables de prendre telle proportion du dioxyde de carbone. Pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que vous avez peut-être entendu parler du GIEC, donc qui font des modèles un peu pour savoir l'évolution, les potentielles voies d'évolution du climat terrestre. Et donc, ce GIEC, les évolutions, il les sort pas d'un simple un tour de magie. Il y a des modèles derrière. Et ces modèles, ils reposent sur quoi ? Ils reposent sur de l'observation. Sur des observations de chercheurs comme moi qui essaient de mettre des chiffres dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à étudier le plancton pour vraiment essayer de bien comprendre et de faire les meilleures prévisions, en fait, de ce que vont être les océans d'ici 5, 10, 15 ans ou un siècle.
Les applications potentielles ou les enjeux liés à la recherche sur le plancton ?
Ce que j'ai dit, c'est que moi, je ne le fais pas pour la société directement. Je ne fais pas non plus de la science pour faire des applications. Il faut vous dire que tous les scientifiques ne font pas de la recherche pour trouver la recherche, par exemple, le remède contre le cancer. Il y en a qui le font. Il y en a une partie qui font de la science théorique. Donc, qui s'intéressent, par exemple, à essayer de comprendre comment est-ce que ça marche. Et c'est de ces intérêts théoriques qu'on va pouvoir potentiellement un jour trouver des applications. Dans le plancton, on peut par exemple trouver des composés qui vont se rendre compte qu'ils vont être un composé particulier pour guérir une maladie. Tout à l'heure, on parlait de menaces. J'avais oublié de mentionner la menace qui y a une des menaces qui est aussi la surpêche. Alors vous allez dire, on ne pêche pas le plancton. Eh bien si, figurez-vous que de plus en plus, on s'intéresse maintenant les industriels s'intéressent à la pêche au krill. Le krill, vous savez, ces petites crevettes qui servent de nourriture à pas mal d'organismes dans les océans australes. Et on a des pêcheries entières qui sont des énormes bateaux avec des grosses pompes qui vont siphonner des bancs de krill. Pour faire quoi ? Bah pour faire de la pâte, des compléments alimentaires que vous allez retrouver dans des petites pilules que vous pouvez manger ou alors que vous allez donner ça à des vaches. Donc la logique de se dire on va pomper un énorme maillon de la chaîne alimentaire pour aller faire grandir des vaches, moi ça m'échappe un peu. Mais voilà, ça c'est une des menaces. Et bah, d'une certaine manière, c'est aussi une application, puisque on a à Boulogne-sur-Mer, on a des chercheurs qui sont intéressés à essayer de cultiver des copépodes. Alors les copépodes, c'est un peu, si vous voulez, les fourmis des océans. C'est les organismes crustacés les plus abondants dans les océans. Et en fait, c'est ce qui sert de nourriture aux larves de poissons. Donc on a des collègues ou des ex-collègues qui sont à Boulogne-sur-Mer qui ont réussi à cultiver plusieurs espèces de copépodes. Et ils peuvent les commercialiser. Par exemple, Nausicaa est intéressée parce que ça leur permet, si vous voulez, de faire grandir directement in vivo des espèces de poissons. Plutôt que d'aller les collecter directement dans l'environnement, comme l'ont fait les zoos et les aquariums depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'ils vont dans un endroit, ils prélèvent directement l'organisme et le ramènent en aquarium. Le fait de pouvoir cultiver ces organismes-là à échelle industrielle, potentiellement, peut avoir des applications intéressantes sur l'aquaculture. L'aquaculture n'a pas que des aspects négatifs. Hein. L'aquaculture pourrait être une des solutions pour répondre aux problèmes de surpêche. Et donc, le fait d'être capable de cultiver du plancton va nous permettre potentiellement de passer une étape sur la partie aquaculture.
Comment peut-on sensibiliser le public à l'importance des micro-organismes ?
Et en faisant venir déjà les gens dans nos laboratoires, c'est ce qu'on essaye de faire à Vimereux. On essaye, que ce soit pour les fêtes de la science, de faire venir les gens, de participer à ce genre d'interview pour vous sensibiliser, à ce qu'on fait. Parce que souvent, les laboratoires, on a un peu l'impression que c'est des choses en vase clos. On sait pas trop ce que font les chercheurs à l'intérieur. Alors, vous pouvez avoir des images un peu biaisées de ce qu'on fait. Alors, je vous rassure, on travaille. Ça passe par la sensibilisation dès les plus jeunes âges, mais pas que. Alors ça, moi, à titre personnel, c'est un peu quelque chose que j'aime pas forcément entendre. On dit toujours il faut sensibiliser les nouvelles générations. C'est vrai, c'est important, mais il faut aussi sensibiliser les générations actuelles, les gens plus vieux que nous, qui sont ceux qui peuvent potentiellement faire quelque chose et pas vous faire reposer à vous directement tout le poids, parce que j'ai un peu l'impression que c'est tout le temps comme ça. On dit c'est aux générations à venir de sauver la planète. Non. C'est à nous de sauver notre planète et de pas vous laisser un truc pourri, quoi. Moi, j'aurais bien aimé que mes parents, je dis pas qu'ils le font pas, j'aurais bien aimé que mes grands-parents et mes parents se disent collectivement tiens, mes enfants, on va essayer de leur laisser un endroit où on peut vivre. Donc, oui, on doit sensibiliser, on doit faire connaître, surtout, en fait, la difficulté, c'est de faire comprendre la complexité de nos recherches. Et aussi que la recherche prend du temps. C'est aussi quelque chose qui pose énormément de problèmes, c'est que ça prend du temps et ça prend de l'argent. Et sans ce temps-là, on peut pas générer des données suffisamment concrètes et avec la rigueur scientifique qu'on se doit d'avoir. Et souvent, c'est ça qui pose problème, notamment sur les gouvernements, puisqu'ils comprennent pas en fait qu'on a besoin de temps. On a eu l'exemple le plus concret avec le Covid il y a quelques années, où on s'est rendu compte tout d'un coup que on voulait un vaccin tout de suite. Et on s'est rendu compte que ça prenait du temps. Et oui, ça prend du temps de trouver des traitements. On a beau avoir des milliers de personnes qui travaillent sur la recherche contre le cancer, on n'a toujours pas trouvé de remède contre le cancer. Donc, laissez-nous du temps pour étudier les océans et on arrivera forcément à trouver quelque chose à faire, quoi.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe où je meurs. De ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe, un bateau. Ça dépend comment on l'arrime au port, de justesse il pleure, de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime, te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet. Où lui c'est le loup solitaire, celui que je voyais briller. au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi le chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure. De ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux ras au ras des rocs qui se consume au l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude.
Maintenant, laissons la parole à Luna et Clémence qui vont vous interroger sur le rôle du plancton dans les flux de carbone dans l'océan.
Une publication parue en 2024 dans la revue Nature Communication vient changer les perspectives sur le rôle des océans profonds et notamment des protistes, organismes unicellulaires qui y vivent, dans la capture et le stockage du CO2. Dans cette publication, vous dites que les océans peuvent intercepter 4 à 9% de carbone et ce chiffre peut monter jusqu'à 20%. Alors, est-ce que tous les océans absorbent-ils la même proportion de carbone? Comment et que font les océans après avoir absorbé tout ce carbone?
Alors, cette publication, effectivement, ça fait partie de la réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait des découvertes récentes et particulièrement intéressantes? Alors, ça fait partie, effectivement, de ces découvertes récentes qu'on a pu publier, qui vient des travaux de ma première doctorante. Et on a étudié en fait de manière globale le rôle effectivement des protistes, comme vous avez dit là, ces organismes unicellulaires. Alors les protistes, certains protistes sont des organismes planctoniques. Les radiolaires dont on parlait tout à l'heure sont des organismes unicellulaires planctoniques. Donc on parle de ça. Et alors, au niveau des chiffres, il faut faire attention parce que vous dites intercepter 4 à 9% du carbone. Et ça monte jusqu'à 20%. Donc ça, c'est vrai. Et alors, il faut faire attention parce que là, en fait, on parle de quelque chose, d'un chiffre qui est potentiellement... Je vais utiliser le terme négatif, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les océans, en fait, comme je disais tout à l'heure, dans les océans, vous avez du phytoplancton. Donc le phytoplancton, il a besoin de dioxyde de carbone, comme n'importe quelle plante, pour faire de la photosynthèse. Ce dioxyde de carbone, il vient d'où? Il vient de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone atmosphérique, il va être transféré dans l'océan par des mécanismes physiques qui va être juste, il va rentrer dedans. D'accord ? Il n'y a pas des organismes qui font rentrer le dioxyde de carbone dans les océans. Ce dioxyde de carbone, maintenant qu'il a été intégré dans la mer, il va pouvoir être utilisé par les organismes planctoniques. Ces organismes planctoniques grandissent, accumulent cette matière, transforment le dioxyde de carbone en carbone organique et le plancton va mourir. Lorsqu'il va mourir, le plancton, il va avoir tendance à couler. Il va couler passivement. En coulant, une partie de ce carbone qui a du coup été pris de l'atmosphère va couler, va être potentiellement séquestré au fond de la mer. D'accord ? Sauf que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est étudié un groupe d'organismes particuliers qui mangent les particules planctoniques qui coulent. C'est ce qu'on appelle la neige marine. La neige marine, c'est plus des myriades d'organismes planctoniques morts qui vont couler. Et dans les océans, vous avez des organismes qui sont des organismes détritivores, donc qui mangent des détritus, comme vous en avez dans les forêts, par exemple. Et nous, en fait, on s'est rendu compte que dans l'océan profond, on a toute une myriade d'organismes qui sont capables d'intercepter cette neige marine. C'est-à-dire qu'ils prennent des détritus et qui vont grandir avec. Sauf que ces détritus sont chargés en carbone organique. Et c'est pour ça que quand on dit « ils interceptent 4 à 9% du carbone », en fait, c'est qu'ils enlèvent la capacité de l'océan à pomper du carbone, ils l'enlèvent. Donc c'est pour ça que c'est négatif. Maintenant, ils le prennent pour assurer leur propre croissance et eux-mêmes, à un moment donné, vont mourir et vont finir par couler. Donc ça, quelle est la proportion qui va être transférée chez eux et qui va être reséquestrée à la fin? C'est une question qu'on a en suspens. Donc, maintenant, pour répondre à la question, est-ce que tous les océans absorbent-ils la même proportion de carbone? Alors là, pareil, c'est très très vaste comme question, puisque en fait, la capacité de l'océan à stocker et à absorber du carbone va dépendre de plein de facteurs. Elle va dépendre, 1, de la température, et 2, des organismes qui y vivent. La température, en fait, elle va avoir un rôle sur la capacité du dioxyde de carbone à être absorbé passivement par la mer. Ensuite, le rôle que les organismes vont jouer, ça va dépendre de la latitude et ça va dépendre de la proximité avec les côtes. Puisque, comme je vous ai dit, on a du phytoplancton. Et le phytoplancton, ça a besoin de quoi pour faire de la photosynthèse? Du dioxyde de carbone, de la lumière et des nutriments. Donc si on réfléchit un peu 30 secondes, est-ce qu'on a suffisamment de dioxyde de carbone pour eux? On en a même trop. Est-ce qu'on a suffisamment de lumière? Il n'y a pas de problème si vous voulez à la surface des océans. Donc qu'est-ce qui nous reste comme dernier paramètre dans l'équation? Les nutriments. Les nutriments sont quoi? Les nutriments, quels sont les nutriments dont les plantes ont besoin? De l'azote et du phosphore, entre autres, pour simplifier. Où est-ce que vous trouvez ça? Bah, vous allez trouver principalement de l'azote et du phosphore à proximité des côtes. Et pas en plein milieu de la mer. Quand je dis plein milieu de la mer, c'est vraiment en plein milieu des océans. Vous avez ce qu'on appelle des déserts océaniques, qui sont des grandes zones où vous n'avez pas beaucoup de vie planctonique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas beaucoup de nutriments. Et en fait, souvent, la capacité d'absorption du carbone va être maximale là où vous avez le maximum d'organismes phytoplanctoniques. Alors c'est beaucoup trop complexe pour résumer ça juste au simple rôle du phosphore et de l'azote, mais globalement, si vous regardez une carte globale de où est produit le maximum de carbone organique via la photosynthèse, ça va être aux hautes latitudes et au niveau des côtes.
L'océan est-il un puits de carbone permanent ou en relâche-t-il aussi? Si oui, absorbe-t-il plus ou relâche-t-il plus de carbone?
Alors, effectivement, on parle de puits et de sources. Donc un puits, l'image est très simple, vous jetez quelque chose dans un puits, généralement ça ne ressort pas. Une source, c'est l'inverse. Une source, c'est vous allez relâcher du coup du dioxyde de carbone. Et effectivement, en fait, on a ce qu'on appelle la pompe de solubilité dans les océans, qui est que le dioxyde de carbone va être dissous. Donc le dioxyde de carbone atmosphérique va être dissous par un point de vue complètement physique dans les océans. Donc il va avoir tendance à absorber le CO2. Là, je ne parle pas des organismes. Maintenant, à certains endroits dans les océans, on va avoir le processus inverse. Pourquoi est-ce qu'on a ce processus inverse? Parce que la solubilité du dioxyde de carbone atmosphérique, elle est proportionnelle à quoi? Je vous donne en mille, à la température. Donc plus vous allez aux hautes latitudes, moins l'océan va avoir tendance à relâcher du dioxyde de carbone. Plus vous allez vers les basses latitudes, donc plus vous allez vers l'équateur, plus là, au contraire, ça va être dans le sens inverse. Donc si vous regardez une carte des sources et des puits de dioxyde de carbone, vous allez voir qu'au niveau des basses latitudes, vous allez avoir l'océan qui va avoir tendance à relâcher de manière naturelle du dioxyde de carbone. Donc si vous réfléchissez un peu 30 secondes à ce que je viens de vous dire, et que vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je vous ai dit tout à l'heure que les océans se réchauffent, tout comme nos planètes. Donc plus les océans se réchauffent, plus potentiellement vous allez diminuer la solubilité de dioxyde de carbone. Et maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'il en absorbe plus qu'il en relâche? J'aurais tendance à dire qu'il en absorbe plus, non pas à cause de la solubilité, mais à cause de la présence des organismes planctoniques.
Peut-on compter sur l'océan pour atténuer les effets du changement climatique? Quelles seraient les limites?
Alors non. Pourquoi non? Parce qu'il ne faut pas compter sur autrui pour régler ses propres problèmes. Donc non, moi je pense qu'il ne faut surtout pas avoir un discours de dire les océans, depuis longtemps, ont des capacités de faire tampon sur les activités humaines, c'est vrai, mais il faut plutôt réfléchir à comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut limiter notre impact sur notre planète pour essayer d'y vivre. Donc on ne peut pas compter, moi je ne pense pas qu'il faille dire on doit compter sur. Maintenant, l'océan, depuis millions d'années, occupent un rôle prépondérant dans la régulation du climat et dans la régulation du dioxyde de carbone, et ça depuis du coup, des millions d'années, voire des milliards d'années. Donc, il va continuer à le faire. Là, il n'y a aucun problème, il va continuer à le faire. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure d'absorber autant de carbone que les activités anthropiques en émettent? Probablement que non.
Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'étude de ce sujet? Y a-t-il des contraintes techniques?
Alors, on va avoir des contraintes qui vont être très variées, hein, parce que ça va aller, par exemple, des coûts, tout simplement, parce que ça coûte de l'argent de faire de la recherche. Et par exemple, je vous mentionnais en début d'interview le fait d'aller dans l'océan austral. Bah, quand on va sur un bateau de recherche, bah, ça coûte de l'argent. Donc c'est un coût qui est quand même assez important. Et bah, on n'a pas un argent limité en recherche. Donc forcément, pour pouvoir étudier les écosystèmes marins, même les plus distants, bah, il va falloir qu'on puisse y accéder. Ensuite, on a certains problèmes qui vont être des contraintes d'ordre technologique et technique. C'est-à-dire que si vous voulez étudier le rôle des micro-organismes dans les océans, bah, il vous faut avoir les bonnes technologies. Et moi, j'ai été contraint, j'ai été confronté à ça en début de thèse, puisque finalement, en début de ma carrière, on n'avait pas forcément les bonnes technologies pour étudier les organismes que je voulais étudier, et que c'est uniquement grâce au développement de certaines technologies qu'on a pu aller plus loin dans notre compréhension des océans. Donc la technologie avance de manière perpétuelle, et très souvent, on va avoir des technologies qui arrivent dans le milieu de la recherche marin un peu par hasard. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, quelqu'un qui a une idée d'utiliser un instrument qui n'est absolument pas dédié pour étudier la mer et qui va dire « Ah bah tiens, je vais l'utiliser » et il va faire une découverte assez intéressante. Donc les difficultés principales, c'est vraiment ça, ça va être le coût, l'accès aux écosystèmes et des problèmes technologiques.
C'est assez impressionnant de voir des êtres vivants si petits influencent autant notre environnement à toutes les échelles. Il reste tant de choses à découvrir et à comprendre, et dire que de nombreuses personnes semblent encore sceptiques sur la réalité même du changement climatique. Abordons maintenant avec Chloé un sujet plus léger mais que nous pourrions rapprocher à ce changement climatique, l'intelligence artificielle.
Bonjour, j'ai en effet une question sur l'intelligence artificielle. On en parle comme si c'était la prochaine révolution. Vous en pensez quoi vraiment? Vous êtes plus ça va tout changer ou ça va être une grosse prise de tête? Et quelle utilisation en faites-vous dans vos recherches?
Alors pareil, hein, question vaste, est-ce que c'est la prochaine révolution? Bah, ça dépend du point de vue dans lequel on se place. D'un point de vue sociétal, je pense que c'est indéniable de dire que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser notre quotidien de plein de manières différentes. Est-ce que ça va accélérer les choses? Est-ce que ça va ralentir les choses? Voilà, c'est des questions très vastes. Pour la partie étude des océans, ça fait maintenant, bien avant que les IA générationnelles que vous avez probablement toutes et tous utilisées ici existent, qu'on utilisait en fait des techniques d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un joli mot qui ne veut pas dire grand-chose et qui cache derrière en fait des outils mathématiques qui vont nous permettre derrière de faire par exemple de la prédiction. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça a déjà changé entre guillemets notre quotidien, nous, d'un point de vue scientifique, dans la recherche sur les océans? Tout à l'heure, je vous mentionnais que j'utilisais beaucoup de caméras sous-marines. Ces caméras sous-marines, elles génèrent des quantités phénoménales d'images. Quand je dis phénoménales, c'est que sur une campagne, par exemple, de 30 jours, on va générer 1,5 million d'images d'organismes planctoniques et de particules marines. Alors, au début de ma thèse, on n'en avait pas 1,5 million, on était plus dans les 150 000. Et j'ai passé plusieurs mois pendant ma thèse à trier des images sur Windows, une par une, en les glissant et en mettant dans les bons fichiers. Et déjà ça, en fait, on utilisait des méthodes de machine learning, d'apprentissage machine, qui sont un sous-domaine en fait, de l'IA. Et cet apprentissage, comment est-ce qu'il fonctionnait? Il permettait, à partir d'un jeu de données de référence, donc des images qui avaient été annotées par des experts, en disant cette image est tel organisme, cette image est tel organisme, on utilisait ces approches pour faire de la prédiction. C'est-à-dire qu'on arrivait de campagne avec plein de données et on disait, voilà, j'ai 200 000 images, j'aimerais bien ne pas avoir à me balader sur chacune de mes images une par une et à dire, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc on utilisait ces outils qui nous permettaient de faire une prédiction. Prédiction de dire, l'image A que tu m'as ramenée ressemble à X% à l'image de référence Intel. Et donc ça, forcément, avec le boom des intelligences artificielles, il y a énormément de compétences, énormément de techniques, de modèles nouveaux qui sont créés. Et nous, derrière, ça nous permet de traiter de mieux en mieux. C'est 1,8, c'est millions et des millions d'images qu'on génère. Pour vous donner un peu une application concrète, je vous parlais tout à l'heure de profileurs, qui sont ces outils techniques qu'on va jeter à l'eau et qui vont faire des yo-yo entre la surface et une certaine profondeur. Et il y a plein de capteurs dessus. Ces capteurs collectent de la donnée, ces données sont envoyées par satellite. On a eu, dans le domaine scientifique français, en océanographie, on a eu un gros projet qui a été créé à côté de Nice, qui avait pour but de mettre des caméras sous-marines, donc les mêmes que j'utilise, mais de les mettre sur ces flotteurs. Et ces flotteurs-là, en fait, vous les lâchez, ils vont dériver pendant des mois dans la mer, ils vont collecter les données, et c'est impossible, si vous voulez, de stocker tout dessus. Sauf que c'est également impossible d'envoyer par données satellites des images. Alors quand je parle d'images, c'est quelques kilo-octets, hein, c'est tout petit. Mais sauf que quand vous en avez des centaines et des centaines, la bande passante sur le satellite, c'est pas suffisant. Donc ce que les collègues dans le sud ont fait, c'est qu'ils ont directement mis dans un micro-ordinateur de la caméra une petite IA, pour utiliser les termes à la mode, qui est capable de faire de la prédiction directement sous la mer des images. Et qu'est-ce qui nous est envoyé, nous, par satellite ? Ce ne sont plus les images, ce sont juste dire de telle date à telle date, à telle profondeur, j'ai vu tant d'images qui ont telle taille et qui sont tel organisme. Donc on en est là, en fait. C'est ça la réalité maintenant de l'IA. Et qu'est-ce que ça va changer ? Bah, nous, ça va plus nous changer sur un gain de temps et sur des capacités, si vous voulez, à aller plus vite dans certaines tâches. Je vous disais tout à l'heure qu'un des principaux problèmes auxquels on est confronté, c'est le temps. Donc, si on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite, de manière plus précise, forcément, ça a un gain de temps derrière. Donc, moi, on va dire, à titre personnel, qu'est-ce que j'en fais dans mes activités de recherche ? C'est un outil pour moi, une IA. On n'en est pas en Terminator avec des robots qui vont vouloir tous nous tuer. On n'en est pas encore là. Une IA, il faut que vous voyez ça comme un outil. Et pour moi, un outil, ce qui est important, c'est de comprendre ses limites. C'est pas juste de se dire, et c'est un peu la poudre aux yeux qu'on vous lance, surtout, j'ai envie de dire, aux générations actuelles comme vous, on vous balance les IA aux yeux en disant, regardez, c'est incroyable. Et effectivement, la première réaction qu'on a quand on utilise les IA, c'est de se dire, c'est incroyable. Ben, moi, je suis le premier à le dire. Hein, quand vous dites, dessine-moi, je sais pas, une image de radiolaire, et puis vous dessinez une image qui est effectivement très proche de la réalité, c'est assez bluffant. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a des contraintes, il y a des limites à ce que peut dire une IA. Une IA, elle est entraînée sur une base de référence. Si cette base de référence est biaisée, que ce soit volontairement ou involontairement, ça va vous poser des problèmes derrière dans les prédictions que vous faites. Donc nous, on est conscient de ça, mais pareil, on a cette sorte de hype de dire que les IA, c'est génial. Et j'ai des collègues qui vont se vautrer dedans, se jeter dedans en disant c'est génial, ça va faire gagner plein de temps. Mais ils prennent pas le temps d'essayer de comprendre quelles sont les limites des outils, qui est finalement une des contraintes principales lorsqu'on fait de la recherche.
Sous des flots d'azur, une danse en lumière, les rizards, ces perles de la mer. Tristan Biard le sait, il explore ses chimères, il est venu nous le dire à Boulogne-sur-Mer. Oh Tristan, chercheur des profondeurs, sous la loupe tu dévoiles leur splendeur. Les rizards qui brillent dans les eaux claires, un balai caché dans le bleu de la mer. Sculpte des coquilles d'une finesse infinie, un art naturel que le temps bénit. Leur rôle dans la vie, un secret à chérir. Tristan Biard, à toi de nous le dire. Oh Tristan, chercheur des profondeurs, sous la loupe tu dévoiles leur splendeur. Les rizères qui brillent dans les eaux claires, un balai caché dans le bleu de la mer. Écoute des vagues, leurs murmures anciens, les mouettes qui planent, un écho marin. Dans le grand livre bleu, tu tournes les pages, un chercheur poète en quête de leur message. Oh Tristan, chercheur des profondeurs, sous la loupe, tu dévoiles leur splendeur. Les rizères qui brillent dans les eaux claires, un balai caché dans le bleu de la mer. Edith Displayed.
Merci beaucoup à Tristan Billard d'être venu faire cette interview dans notre lycée. Avez-vous quelque chose à dire avant de partir ?
Merci à vous et on va continuer à vous interpeller aux océans de la manière que vous pouvez.